Bonjour, je suis Monsieur Morin.
Oui, c'est à quel sujet?
Au sujet, monsieur, vous êtes chez moi.
Ah oui, je comprends, mais je vous prie de nous excuser. Nous avons un peu de retard. Ma femme a été malade, mais nos valises sont prêtes et on va s'en aller tout de suite.
Certainement, ma femme aussi a été malade dans la voiture. Vous êtes en tort, monsieur. Vous avez dépassé 12 heures. J'aurais très bien pu arriver ici à 0h10.
On aurait pu être là à 0h01 si on avait voulu.
Si vous avez envie de vous laisser marcher sur les pieds, ça vous regarde. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange.
Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio B avec
Franck, Philippe,
Cathy,
Fabrine
et notre rapporteuse très spéciale, Émilie. Une émission collective à géométrie variable des bénévoles de la Grange aux Parapluies, association atypique et espace de vie sociale qui vous propose tous les mois un éclairage sur un thème qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, une émission qui, j'espère, va ouvrir des portes. Ouvrir sa maison, son chez-soi, pas toujours facile. On l'ouvre volontiers à sa famille, ses amis, ses voisins, parfois ses collègues. Ouvrir sa maison à des connaissances ou à des inconnus, vous le faites, vous ? Ce sera donc le sujet du jour. Ouvre-la, ta maison ! Allez, à toi, Fabrine.
Le domicile, le foyer, le bercail, les pénates, la propriété, le logement, la demeure, les termes sont nombreux pour désigner la maison. D'ailleurs, l'un des premiers dessins que réalisent nos enfants après le bonhomme patate, bien sûr, est la représentation de la maison. C'est dire l'importance que représente le chez-soi pour chacun d'entre nous. Alors avant de l'ouvrir la maison, ou peut-être pour pouvoir l'ouvrir, il est sans doute intéressant de chercher à comprendre ce qui est en jeu dans le chez-soi. Le chez-soi, c'est tout à la fois un repère au sens de refuge et un repère dans le sens où il est un point de repère. Le déménagement figure d'ailleurs en bonne place sur l'échelle des événements les plus stressants. La maison, c'est l'espace personnel où l'on se retrouve entre soi. C'est l'espace que l'on peut aménager à notre convenance, celui qu'on décore selon nos goûts et nos préférences. C'est le lieu où s'entassent nos souvenirs, c'est l'endroit où l'on se repose, où l'on reprend des forces. Dans un monde en mouvement perpétuel, qui nous sollicite en permanence, où l'efficacité, la rentabilité, le marché sont devenus des mots d'ordre, je plaide avec Mona Chollet pour la nécessité d'avoir et de cultiver un espace à soi, pour soi. Pourquoi cela me semble si important ? Car je crois que chacun d'entre nous devrait avoir droit à un espace où il peut se retrouver, se ressourcer, un endroit où rêver, un endroit de tranquillité, un lieu pour se blottir en toute sécurité, un espace d'intimité en somme à l'écart de la vie sociale. Cet espace me semble indispensable pour renaître à soi et pouvoir à nouveau se rendre disponible aux autres. Je pense notamment aux femmes qui souvent encore n'ont pas d'espace personnel dans le logement familial. La cuisine tient encore trop souvent lieu de fief féminin. Pauvre royaume. Cette exigence semble bien incongrue et la formuler me met mal à l'aise, tant j'ai conscience que beaucoup d'entre nous ne disposent pas de toit et où il devient de plus en plus difficile de se loger. Et pourtant, le chez-soi comme espace à la fois physique et symbolique permet de retourner vers soi chaque fois que cela est nécessaire pour pouvoir retourner aux autres. De cela, je suis persuadée et Mona Chollet finit de me convaincre. Je vous livre ici un petit extrait. La maison, elle permet de respirer, de se laisser exister, d'explorer ses désirs. Bien sûr, on pourra hurler à l'individualisme, mais j'aime assez l'image à laquelle recourt l'architecte américain Christopher Alexander. Si une personne ne dispose pas d'un territoire propre, attendre d'elle qu'elle apporte une contribution à la vie collective revient à attendre d'un homme qui se noie, qu'il en sauve un autre. Je vous invite donc à la lecture du beau livre de Mona Chollet, « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique » aux éditions La Découverte. Bonne lecture.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane.
Et maintenant, place à Émilie, qui est en reportage très spécial chez l'habitante. Elle interroge Emeline, Magali et Sandra.
Maison, elle me sert à me retrouver en famille, me retrouver moi, un endroit dans lequel je suis chez moi, donc sans tabou, sans gêne, tranquille, sans limite, j'y fais ce que j'ai envie, ce que je veux, c'est vraiment l'espace de liberté, de sérénité, donc j'y dépose mes affaires, mes fesses dans le canapé, mes soucis de la journée. Dans cette maison, bah, y a toute ma famille, y a mes chats, dans mon jardin, y a mes arbres, y a que des choses qui sont à moi, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas de volet, j'ai pas de barrière, j'ai pas de portail. Parce que finalement, je suis chez moi, mais j'aime aussi en faire un espace où je peux accueillir les autres. Donc voilà, c'est une maison qui est ouverte, parce que ben, même si j'ai besoin finalement que ce soit un lieu de ressources personnelles, dans cette ressource, ben, j'ai aussi besoin d'y accueillir les gens que j'aime. Donc voilà. Et puis la dernière question, c'est la maison idéale. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me projette et que je me vois vieillir, je trouve que ma maison est trop grande et j'aimerais finalement avoir une petite pièce de vie très chaleureuse avec une chambre et puis bah, une salle de bain et plutôt des grands espaces à l'extérieur pour bah, justement accueillir les copains de passage, les enfants qui reviennent à la maison. Mais voilà, mais en tout cas toujours dans l'idée d'avoir quand même un petit lieu à moi ressourçant.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Il y a quoi dans ta maison ? Il y avait beaucoup de rires avant, beaucoup de monde, beaucoup de passages. Il y en a un peu moins aujourd'hui, mais en contrepartie, il y a un hamac, de la musique, des livres et une cuisine toujours en action pour recevoir le plus possible ou donner. Ma maison idéale ? Hier comme aujourd'hui pour le coup. C'est une maison avec presque pas de murs, comme dirait l'autre, et des fenêtres, de la lumière, beaucoup de lumière. Des plantes, donc de la nature dedans, des gens, des rires. Un abri, toujours un abri, parce qu'on en a tous besoin à un moment ou à un autre. Elle te sert à quoi ta maison ? Alors deux éléments de réponse. Aujourd'hui, elle me sert un peu comme une grotte, c'est un refuge. Hier, elle me servait à construire une famille, à amener des gens, à en faire un lieu de bonheur, de partage et un abri.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange !
Elle me sert à quoi ma maison ? En voilà une bonne question. Une question que je ne me pose pas tous les jours. Mais le premier mot qui me vient en tête, ma maison, c'est ma famille. C'est le lieu où on se retrouve entre nous. Et puis c'est un peu ma grotte aussi. Quand j'ai envie d'être toute seule, j'ai envie de fermer la porte, d'être toute seule chez moi, tranquille. Et quand je me suis bien ressourcée, j'ai envie que ma maison, ça soit aussi une porte ouverte. Et pour pouvoir accueillir au chaud l'hiver auprès du feu et puis l'été sur la terrasse ou dans le jardin pour profiter de la nature et puis profiter ensemble avec nos proches, notre famille. La maison, c'est vraiment le lieu où on a envie d'être bien, seul ou ensemble.
Idée à coudre et trois gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelards, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Merci à toi Pierre pour cette magnifique chanson pleine d'espoir. On rejoint tout de suite la séquence de Cathy qui va nous parler d'un phénomène d'édredon.
La maison toujours ouverte et dans laquelle j'aimais aller enfant était celle de mes grands-parents. Avec ma sœur, nous y passions une nuit quand mes parents en goguette nous y laissaient. Après le souper et son immuable soupe de légumes de mon grand-père, préparée par lui, avec les légumes de son jardin bien sûr, nous montions à l'étage dans cette chambre froide. Ma grand-mère avait préparé les bouillottes pour réchauffer nos petits pieds et nous plongions dans ce vaste lit au matelas tout mou où nos corps étaient ensevelis, entourés de ces draps de coton aux fleurs usées, mais si doux. Nous ne pouvions plus bouger, écrasés en toute sécurité, sous le poids des couvertures et de l'édredon. Ma grand-mère nous embrassait et bien sûr que nous allions faire beau rêve. Je vous lirai aujourd'hui un petit texte d'Anne Sylvestre intitulé « Édredon » qui se trouve dans le recueil dans ce recueil écrit par elle qui s'appelle « Coquelicot et autres mots que j'aime » et on retrouve « Édredon » après « Transhumance » et avant « S'esclaffer ». Je vais vous lire. Édredon. Je dis édredon et je me pelotonne. J'aime mon lit passionnément. Peut-être pas au point malgré tout de me coucher tôt, je suis un oiseau de nuit. Mais le quitter le matin me semble insupportable, quand il est chaud, imbibé de mes rêves qu'il est devenu un cocon. Pousser une jambe dans un coin plus frais au risque d'attirer une crampe, me retourner comme une carpe, oh, le danger de me rendormir. Je suis devenue une adepte de la couette, si agréable et qui simplifie tellement le ménage, mais l'édredon c'est autre chose, édredon. Cet « et » ouvert comme un bâillement, « dredon », deux fois le « de », consonne douce et délicate, « dredon », »,« dredon », comme un ronronnement, un fredon, une berceuse. L'édredon était gros, rebondi, lourd, même s'il était rempli de plumes. En Bourgogne, on l'appelait un plumon. Il venait par-dessus, en plus des couvertures bordées, pour mieux nous clouer, nous condamner à sa chaleur. Il est vrai que parfois les chambres étaient si froides quand le givre dessinait ses paysages sur les vitres qu'on avait besoin de cette caverne, de ce terrier de marmotte pour survivre à la nuit. J'ai le souvenir en particulier d'un lit où nous avons dormi ma sœur et moi chez notre tante Marthe. Il était si haut qu'on devait prendre son élan pour y grimper, s'enfouir sous deux édredons avec une sensation de naufragé touchant au port. Nous cachions nos vêtements sous les couvertures pour pouvoir les renfiler à l'abri au matin, chaud de la nuit, avec des contorsions qui nous donnaient le fou rire. Malgré toutes ces précautions et malgré la brique sortie du four qui était censée réchauffer nos pieds, nous grelottions encore longtemps avant de nous endormir dans l'humidité de cette vieille maison. J'ai une petite nostalgie, mais échangerais-je à présent le confort de mes couettes légères et de mon appartement bien chauffé contre le folklore de ces refuges de satinettes ou de finettes, roses ou quadrillées de bleu? Peut-être pas. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt, chers auditeurs.
Les Fonky n'étaient pas au courant des rumeurs qui couraient à leur sujet. Un jour, Aimé et Rosie décidèrent de faire une visite de courtoisie à leurs plus proches voisins, Marie-Pierre, Bernard et Jean-Pierre.
Bonjour, c'est qui? Bonjour, c'est quoi?
Qui vient nous déranger?
Vous venez pour qui? Vous venez pourquoi?
On est en train de manger.
Je suis Aimé Fonky, voici ma femme Rosie.
Moi, c'est Rosie Fonky, et lui, c'est mon mari.
votre propriété est charmante.
On est en location.
La couleur des murs m'enchante.
Ah bon, vous aimez bien le marron.
Les ronchonchons, dédicace à ma fille Adèle.
Briques et pavés.
L'émission qui dégrange.
Voici l'expérience racontée par des habitantes qui ont ouvert leur maison et leur jardin pour accueillir du spectacle vivant.
Je m'appelle Amandine, j'habite à Cuay et j'ai participé au Show Must Go On il y a 2 ans environ. J'ai entendu parler de ce projet par la Grange aux Parapluies. J'ai trouvé ça original. J'habite dans une maison où j'ai de la place, où j'aime accueillir les gens et c'était vraiment l'occasion de le faire.
Alors, je sais qu'il y a eu 2 artistes qui sont venus chez toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors, il y a eu Pauline Monin dans l'après-midi qui est venue faire de l'expression corporelle. C'était familial, zen, en pleine nature. On s'est détendu dans cette période compliquée du Covid. Et puis après, j'avais demandé de l'humour. Et on a reçu un artiste qui s'appelle Titou et qui nous a fait rire avec des mots. C'était vraiment à la fois entraînant, curieux, et ça a vraiment plu à tout le monde, ce jeu de mots à la Guy Bedos que Titou nous a proposé.
Il me semble qu'il y avait pas mal de monde chez toi. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien il y a eu de 2 personnes chez toi et comment ces personnes-là ont été invitées?
Alors, comme c'était dans le jardin, j'ai pu proposer à une trentaine de personnes, parce qu'entre la famille, les collègues, les voisins qui sont venus aussi, ça a fait vite du monde. Et vraiment, dans le jardin, on a installé les chaises, Titou s'est mis sur la terrasse et il y avait de la place pour le recevoir et participer à ce projet.
Alors moi, j'aimerais bien savoir si tu peux nous dire quelques mots sur cette expérience particulière d'avoir ouvert ta maison durant cette période.
Alors, ce qui m'a inquiété au début, c'était quel artiste je pourrais faire venir, comment faire, parce que ça me plaisait cette idée de faire venir des artistes chez moi plutôt que d'aller dans une salle voir un spectacle. Et du coup, la Grange aux Parapluies a trouvé Titou et puis Pauline pour la danse. Et finalement, j'ai trouvé ça très simple. On s'est mis en lien avec les artistes, on a donné des horaires, ils sont venus à la maison s'installer le jour J. Et c'était vraiment une belle expérience aussi de mélanger entre les amis, les collègues, comme je disais tout à l'heure, les voisins, pour le même spectacle, pour la même occasion de rire ensemble et de partager un moment convivial.
Alors Amandine, j'ai l'impression que c'est plutôt... Enfin, en tout cas, ça a été facile pour toi d'ouvrir ta maison.
Oui, vraiment facile. Il faut le faire, il faut oser parce que c'est simple.
Merci Amandine.
Bonjour, je m'appelle Irène, je suis retraitée. Mon conjoint, j'habite à Saint-Jean-sur-Ressouze.
Alors Irène, je sais que tu vas bientôt participer au calendrier de l'aventure organisé par la Grange aux Parapluies au mois de décembre, mais il me semble que c'est pas ta première expérience, en tout cas ni à toi ni à Pascal. Est-ce que tu peux nous parler de notre expérience de l'année dernière?
Avec grand plaisir, ça a été une très belle expérience que je vais renouveler cette année. L'année dernière, effectivement, j'étais très heureuse d'ouvrir mon salon que j'ai vidé et j'ai rendu cet espace pour 2 spectacles. Donc un qui s'appelle la Compagnie des Affabulateurs. Et le second qui était plutôt de la danse libre avec Charlène et sa collègue qui jouait du hautbois, Gaëlle. J'ai beaucoup aimé ce temps de partage. Donc c'est très chouette de pouvoir rencontrer différentes sortes de personnes. J'ai tellement aimé cette expérience parce que je trouve que c'est vraiment un cadeau, cette culture, non seulement à la campagne, mais à domicile, dans ce lieu qui est un peu intime, chaleureux. Cette année, je reçois et j'accueille avec Pascal, qui m'accompagne, 2 spectacles à nouveau, courant décembre.
Donc, quels sont les spectacles que vous allez recevoir sur ce mois de décembre ?
Alors, le 6 décembre, nous recevons M le Maudit, qui sera plutôt un spectacle de conte. Et le 7 décembre, toujours à 18h30, comme la veille d'ailleurs, donc Julie Garnier qui est des chants.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Eh bien bonjour, je m'appelle Marie-Noël, j'habite la commune de Saint-Julien-sur-Essouze. J'avais été interpellée pour mettre en place ce show Must Go On pendant la période de Covid. Ce qui m'avait plu, c'était de recevoir chez moi, dans ma cour. C'était sur invitation, j'ai invité mon voisinage, parce que dans mon quartier, on se voit pas très souvent. Ma famille, qui était disponible aussi, mes amis... on était une quarantaine de personnes à peu près. C'était un public tout âge, qui allait des enfants pas très grands, 3-4 ans, à plus de 80 ans. On a partagé ce moment, des gens ont discuté, se sont rencontrés. Oui, des gens donc ont apprécié et tout le monde a partagé un bon moment. Donc moi, le bilan que je retire, que c'était un très bon moment pour moi. Au niveau de l'organisation... Pas de souci, la grange avait pris en charge donc la réservation des artistes, la programmation, l'organisation du petit buffet après. Et pour moi, ça n'a pas été une charge de le faire. Pour moi, c'était une très bonne expérience, un très bon moment. Et puis, c'est quelque chose que j'aurais envie de refaire, volontiers, avec... pas forcément de la musique, mais une petite pièce de théâtre... ou des acrobates, parce que c'est pas... Parce que je pense qu'on va pas beaucoup au spectacle, nous, ni au cirque, dans nos quartiers, quoi.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la môme du 8ème. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia.
Merci Renaud, mais je pense que comme tous les hommes, tu devrais être au bistrot, puisqu'effectivement, on a beaucoup de témoignages féminins. Allez, on enchaîne.
Pour alimenter notre question du jour sur notre rapport à l'habitat, j'ai choisi de vous emmener faire un tour chez Renaud, le constructeur auto. C'est pas logique selon vous, je frise le hors-sujet. Attendez la suite. Donc, en 1984, la régie Renault, aidée par les ingénieurs de Matra, lance la Renault Espace. Aussi chère que la bourgeoise Renault 25, mais plus transgressive, plus bobo-bohème avant l'heure, telle est la Renault Espace. Cette auto signe le début de la modularité avec des voitures familiales qui ne sont plus des bétaillères. Famille nombreuse, famille heureuse, comme chantaient les négresses vertes. Donc, dans une Renault Espace, il y a plein de vitres et plein de places, et ça s'adapte à chacun. Enfin, c'est ce que dit la pub. Les fabricants auto ont toujours été des champions pour les slogans marketing, et des fois, il faut l'avouer, c'est brillant. Ainsi, pour ce modèle, Renault osait donc cette punchline « On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace ». Sauf que, 40 ans après, la Terre va de mal en pis. Du coup, certains rêvent de post-existence dans la stratosphère ou d'une résidence secondaire sur Pluton. Le slogan de Renault nous revient alors en boomerang. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace. Courage, fuyons. 2022 donc, la voiture est doublement à l'ordre du jour. Elle cristallise notre relation masochiste avec la couche d'ozone. Les récentes pénuries de gasoil sont là pour nous convaincre de cette dépendance au tout auto. Et c'est lié avec l'habitat tout ça, au coût des terrains et au bassin d'emploi concentré trop loin des zones pavillonnaires. Pour avoir son petit chez-soi paradisiaque, le Français accepte d'être asservi à l'auto. Et pendant le trajet, il s'abreuve de publicité à la radio pour en rajouter une couche sur son pouvoir d'achat, soi-disant en berne. Le pire dans cette vision aigre-douce de notre quotidien, c'est qu'il y a une frange de la population qui n'a même pas à choisir entre la voiture et le logement, car pour certains, en 2022, la voiture, c'est le logement ou le lieu de travail. Je fais un petit pas de côté pour évoquer, de ce que j'en devine, le quotidien des prostituées qui jalonnent nos départementales et nos sous-bois de zones périurbaines. Les grandes villes se sont relookées, boboisées, et cette activité de prostitution faisait des ordres. Comme d'autres, l'activité a donc dû émigrer hors des villes. C'est comme cela qu'on se retrouve aujourd'hui, au bout de nulle part, à partager un chemin avec des femmes condamnées à s'envoyer à l'air dans un piteux jumper de chez Peugeot. D'autres se font cogner matin, midi et soir dans un vieux boxeur Citroën échoué sur un parking. Tel est le quotidien de dizaines de femmes à quelques kilomètres de nos doux foyers réconfortants, même en Bresse. Bref, 2022 marche sur la tête. Les uns vivent ou travaillent dans leur voiture faute de mieux, les autres habitent loin et n'ont pas de voiture pour aller bosser. Les maisons sont si petites que les voitures dorment dehors, car le garage est occupé. Espace de travail, salle de jeu, chenille ou que sais-je. Certains aimeraient se poser et ne peuvent pas. Et certains aimeraient bouger et ne peuvent plus s'offrir ce luxe à 2,20€ le litre. Ressaisissons-nous. L'habitat ne doit pas être un lien qui nous asservit au lieu, qui nous retient et nous enclave, mais un lien au sens positif. L'habitat devrait pouvoir être un espace chaleureux, havre de frais, pas une passoire thermique ou du trop chaud ou du trop froid. Heureusement, cette émission du jour le dit aussi, l'habitat, c'est être le prétexte à inviter, à accueillir, à partager. Bravo à celles et ceux qui l'ont compris. Merci les copains et copines, merci à la cohabitation rieuse ou au covoiturage rigolo. À bientôt chez vous, chez moi, sur les routes ou ailleurs.
L'émission qui dérange.
Bien, échanger sa maison, ça vous dit? Certaines personnes partent en vacances dans des maisons inconnues, de propriétaires inconnus. Voilà, c'est des super expériences. Visiblement, on va avoir le témoignage de certains vacanciers. Nous, on a testé quelques fois. Voilà. À vous les studios.
Alors, on vit des échanges de maisons depuis 2013. À ce moment-là, on n'avait que 2 enfants. Maintenant, on a 3 enfants et on a fait 7 échanges de maisons, alors 6 dans la France et puis 1 à l'étranger en Espagne. Et voilà, on est vraiment ravis de cette expérience. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup chaque été. Voilà, il y a une petite interruption avec le Covid. Ça s'est moins fait dans les 2 années, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien garder en projet dans nos étés. Ce qui nous avait donné envie de vivre cette expérience, c'était le témoignage de voisins qu'on avait à l'époque, qui vraiment, ça nous avait séduit de pouvoir être quelque part immergé directement dans une région à travers la maison de quelqu'un, et puis de pouvoir partager notre maison. Est-ce que tu veux dire, Adèle, toi, ce que tu aimes dans l'échange de maison?
Alors, moi, ce que j'aime dans les échanges de maison,
C'est quand il s'est équipé en livres et en jeux de société. Et quand on s'attribue une chambre à chacun et qu'on choisit avec mes frères et sœurs quelle chambre on va avoir.
Voilà, effectivement, on trouve ça très agréable d'être déjà immergé dans la région à travers les bons plans, les bonnes adresses que peuvent nous donner les gens et de ne pas perdre de temps finalement à savoir où on doit aller. Là, on sait vraiment que ce sont des conseils personnalisés et puis des gens du coin. Moi, j'aime aussi beaucoup préparer ma maison pour accueillir des gens, même si je ne les connais pas, parce qu'effectivement, dans un échange de maison, on ne se croise pas, on ne se voit pas physiquement. Par contre, on peut avoir beaucoup d'échanges, chacun sur notre lieu de vacances. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup préparer ma maison, d'en faire un lieu qui soit agréable pour les gens qui viennent, de mettre un petit bouquet de fleurs, de faire un panier garni de spécialités de chez nous. Et puis mon mari, lui aussi, passe beaucoup de temps à préparer sur le côté plus touristique, à donner les bons plans, des choses assez aussi personnalisées. Enfin, voilà, donc on prend vraiment du plaisir et un peu de temps aussi à préparer ça, voilà, c'est précieux pour nous. Notre expérience la plus marquante, ça a été à Orio, dans le Pays Basque espagnol.
En fait, c'est parce que s'il n'y aurait pas eu l'échange de maison, on n'y serait pas allé parce que c'est pas une ville très touristique. Mais c'est quand même une ville hyper mignonne parce qu'en fait, on n'est pas habitué aux habitudes espagnoles. Donc du coup, c'était trop bien. Enfin, en plus, on pouvait y aller en vélo à la plage.
Et notamment avec cet échange-là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a des personnes avec qui on échange, avec qui on pourrait vraiment devenir amis. Enfin, on ne se rencontre pas, mais on a tellement de beaux échanges, de messages et d'attention les uns vis-à-vis des autres que voilà, c'est des belles rencontres à distance.
La jalousie des dieux, ouvrez. On commémore la foudre, ouvrez. Ouvrez. Couvrons ces martiens, où courent ces chiens bleus, siroter la mer.
Eh bien, chers auditeurs de Briques et Pavés sur Radio B, une rencontre avec Jean-Marc Jourdan de l'association 100 pour un toit 01, avec un slogan « Sans toi, mais pas sans droit ». Sans toi, avec toi, T-O-I-T, vous l'aviez compris. Jean-Marc, bonjour. Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette association 100 pour un toit ?
Alors en fait, l'association 100 pour un toit s'est créée il y a à peu près un peu plus de 4 ans et est partie d'une initiative qui avait déjà eu lieu dans d'autres départements avec un slogan qui est « Sans toit, mais pas sans droit ». Le principe, c'est qu'on recherche 100 donateurs qui donnent 6 euros par mois et qui s'engagent à les donner pendant 2 ans, ce qui permet de louer un logement, un appartement, et dans lequel on peut héberger une famille de déboutés du droit d'asile. Une famille de migrants qui n'ont plus de droits.
Et peux-tu nous expliquer ce qu'est un débouté du droit d'asile ?
Alors les déboutés du droit d'asile, c'est des migrants qui ont dû partir de chez eux pour tout un tas de raisons qui peuvent être différentes. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et qui se retrouvent en Europe, en France, et qui demandent l'asile. Et tant qu'ils demandent l'asile, et tant qu'ils sont en procédure de demande d'asile, ils ont un certain nombre de droits. Mais lorsque lorsque l'OFPRA a décidé qu'ils n'avaient pas droit à un asile, ils n'ont plus de droits. Donc ils ne peuvent plus avoir de logement, ils ne peuvent pas avoir de travail, ils sont sans droit. Et c'est là que nous pouvons intervenir, et pas toujours malheureusement parce que nos finances ne nous le permettent pas complètement, mais lorsque l'on peut, on leur propose un logement.
Donc tu l'as dit, Jean-Marc, que ce n'est pas qu'à Bourg-en-Bresse et dans le 01 qu'on trouve cette association, il y a un réseau un peu plus régionalisé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors c'est un système associatif qui existe déjà dans une trentaine de départements à peu près sur la France. Nous, on a un petit peu copié ce principe, donc je vous disais 100 donateurs qui versent 6 euros par mois pendant 2 ans. Et aujourd'hui, donc 4 ans après, on a pas loin de 700 donateurs sur le département de l'Ain, avec des antennes à Ambérieu-en-Bugey, à Oyonnax, au Poisat. Et on arrive comme ça à loger 16 familles. 16 familles qui représentent 35 adultes et 26 enfants ou adolescents.
Et au cas particulier, comment ça se passe dans l'Ain pour cette association ?
Ça se passe pas si mal que ça, en fin de compte. On n'a pas tellement de heurts, puisqu'on n'embête personne. Notre difficulté, au départ, ça a été de s'appuyer sur les bailleurs sociaux pour essayer de trouver des appartements. Et là, ça a été un refus net et clair. On ne pouvait pas bénéficier des bailleurs sociaux pour trouver des logements pour les demandeurs d'asile déboutés du droit d'asile. Donc il a fallu qu'on se retourne vers les bailleurs privés. Et là, entre les bailleurs privés, les militants associatifs, les bailleurs militants, on a réussi à trouver ces 16 logements.
Jean-Marc, le mot de la fin, que pourrais-tu nous dire pour conclure sur la présentation de cette association, 100 pour un toit ?
Ben moi, je dirais simplement que quand on a une vie meilleure que les autres, eh bien, on ne construit pas un mur plus grand, mais on fait plutôt une table plus longue. Et puis, pour terminer, je voudrais donner une citation. C'est d'un écrivain uruguayen qui disait que beaucoup de petites gens, en de petits endroits, faisant de petites choses, peuvent changer le monde.
Jean-Marc, pour vous contacter ?
Alors, vous pouvez nous contacter par mail sur l'adresse suivante 100pour1toit01@gmail.com. Et vous pouvez aussi aller visiter notre site internet qui est www.100pour1toit01.org.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
J'ai crié ce silence d'insoumis. Sous le feu de sa barre, on est à genoux devant l'oubli. Debout devant la croix, j'ai rêvé de frontières endormies. Oh, à ce chien qu'on abat, on lui vend du rêve et de la pluie, de la mort et du visa. Entre tes mains, l'espace humain voudrait briller sous d'autres peaux. Elle s'insurge, puis vocifère, puis voir fleurir le tombeau. L'on crie libre, mais solitaire, à la faveur de l'été.
J'avais à cœur de témoigner aujourd'hui dans cette émission par rapport à ma conception, mon vécu, notre vécu de la maison. La particularité de mon histoire d'habitation, c'est que déjà chez mes parents, on était dans une sorte de maison du bonheur, une maison où on faisait toujours trop à manger parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui pouvait arriver. On disait qu'on gardait la part du pauvre. C'était une maison déjà sans clé à cette époque-là, une maison où on n'était pas inquiet de laisser sa porte ouverte ou de partir en vacances avec une porte ouverte, une maison où on pouvait toujours voir des voitures dans la cour ou des mobilettes selon les étapes de vie. Et voilà, ça c'est mon histoire. J'ai vécu dans ce bel environnement-là. Et au moment moi-même de choisir une maison, figurez-vous que mon choix est allé vers une habitation qui accueillait déjà un festival d'art vivant. Je tiens à faire une grosse dédicace au Chapon Pointu, qui était un festival organisé par l'association la ferme à réceptacle. Et lorsque l'on a visité cette maison, c'est une maison qui vivait, qui avait déjà une âme festive, une âme de solidarité et d'ouverture. Et du coup, quelques années après, après avoir créé notre cocon, j'ai décidé de pouvoir vivre avec mes filles dans une maison un peu différente, puisque c'est une maison où nous avons certes notre habitation principale, où nous sommes avec mes filles de 10 ans et 12 ans, bah, dans un format familial, à se coucouner sur le canapé, à faire des jeux dans le salon, à manger, à grignoter, à cuisiner dans la cuisine, mais très souvent, cette maison est remplie, cette famille est complétée, ne serait-ce que par notre Mikey, qui est notre voisin tout proche, puisqu'il a décidé d'installer sa tiny house juste derrière notre maison. Cette grande famille est complétée aussi par Étienne, qui avait aussi besoin d'être accueilli avec sa caravane dans la cour derrière. Donc déjà notre sphère familiale et notre maison est déjà bien occupée par les copains présents. Et puis quelques jours dans l'année, nous accueillons du public, puisque notre maison est aussi le lieu de la grange aux parapluies, où nous avons eu jusqu'à 650 personnes dans la cour, dans les granges, dans le pré qui devient alors un parking. Et c'est tellement beau de voir à quel point tout peut se transformer quand une balançoire devient un lieu ludique pour 50 enfants. Quand une fosse à fumier devient une fresque pour des graffeurs, quand une grange devient une salle de spectacle, quand des palettes deviennent un bar, la maison prend alors une autre forme. Je tenais aussi à témoigner du fait que sur 8 ans d'existence, 8 ans à ouvrir cette maison, à ouvrir ce lieu, je n'ai eu que des points positifs, que des belles surprises, jamais un problème de vol, d'incivilité. Ce sont des mots qui n'existent pas ici, mais bien au contraire, que des bonnes nouvelles, des bons cadeaux. Je me rappelle rentrer avec mes ch'tites un soir et découvrir devant la porte des vélos qui avaient été posés, je ne sais même plus par qui, des gens qui viennent nous donner des choses, parce que c'est un lieu associatif, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où on partage et les personnes peuvent s'en saisir pour y faire des dons ou y partager des choses, des personnes qui souhaitent venir pour pouvoir partager leur art, leur culture. J'ai aussi souvenir d'artistes qui repartaient avec un petit chaton qu'on avait à donner parce que l'entente était là et que le lien a fait qu'ils sont partis avec un petit morceau aussi de notre famille. Voilà, donc pour moi, la maison, c'est à la fois certes un endroit de cocooning, mais c'est aussi beaucoup un endroit de partage, de rencontre. Et c'est vraiment par ce fonctionnement que je souhaite transmettre à mes filles cette ouverture, cette envie de rencontrer, d'avoir confiance en l'autre. Ça, je ne pourrais vraiment c'est vraiment quelque chose qui est fort pour moi, de pouvoir avoir confiance en toute personne qui vient vers soi, qui va ouvrir la porte de la maison, et que cette positivité puisse aussi entraîner une rencontre positive. Donc je ne serai que favorable à l'ouverture des portes, à l'ouverture des portails et l'ouverture des frontières.
Briques et pavés,
l'émission qui dégrange.
Alors, on dirait bien qu'ouvrir sa maison procure un vrai plaisir et l'expression de nos valeurs préférées, le partage, la convivialité, la confiance. D'ailleurs, cette émission a été enregistrée dans une maison. Merci à Fabrine et Franck pour l'accueil. Ouvrir sa maison, ne serait-ce pas ouvrir son cœur ? À la Grange aux Parapluies, on aime tellement ça que des maisons et lieux seront ouverts tous les jours du mois de décembre. Vous connaissez le calendrier de l'Avent ? Tous les jours, on ouvre une fenêtre pour déguster un chocolat. Ben là, c'est pareil, mais grandeur nature, pour déguster des spectacles, du vin chaud, de la danse, de la musique, des ateliers de transmission de savoir, et j'en oublie. Programmation à retrouver sur Facebook de La Grange et par mail sur le site internet. Prochaine émission, Pieds et Poings Liés, une émission sur la liberté.
Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante. Nous sommes de ceux qui font l'amour en deux temps. Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais. Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas à des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non, qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont tabous. Et pourtant, nous sommes de ceux qui ne renoncent pas à des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont assez de leur propre férocité. Des requins tigres en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre et faire taire leur sale travers. Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments. Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre. Nous sommes de ceux qui pissent encore dans la douche mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit. Nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à coups de grenades lacrymo pour l'effrayer et la maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante. Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis, qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui demandent qu'à être sorti. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles, qui desserreront jamais les mâchoires sauf pour sortir les crocs.
C'est vraiment l'équipe qui était la moins capable.
On ne sera jamais rationnel avec ce type de Lascar.
Faut composer avec.
On a adapté un jeu différent.
Il n'y a que les inconscients qui vous diront le contraire.
Ça a été rationnel. Mais sans qu'on se casse la gueule.
Briquet pavé, pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briquet pavé,
l'émission qui dégrange.